C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et j'ai le plaisir ce matin d'être accompagné de monsieur Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut tout le monde, vous qui nous écoutez sur Clubhouse et dans votre canapé ou dans le métro.
Oui, parce que cet épisode est aussi en direct sur Clubhouse. Voilà, il y a plein de monde dans une room là, une petite room où on se retrouve. On a décidé de faire ça maintenant tous les lundis. Pour l'instant, on enregistre le Super Daily en direct sur Clubhouse et puis après on prend un quart d'heure pour débriefer de l'épisode. Donc pour ceux que ça tente, bah retrouvez-nous semaine prochaine, lundi prochain sur Clubhouse @supernatif. Allez, quoi de neuf dans ta besace social media, mon grand ?
Eh bien, je pourrais te parler de LinkedIn ce matin. LinkedIn pour les freelances. LinkedIn développe actuellement une nouvelle plateforme pour faciliter de nouvelles opportunités de marché freelance. Une plateforme qui sera indépendante, appelée Marketplace, bah ils auraient pu trouver mieux, permettra aux entreprises de trouver, de se connecter et de payer des pigistes, des freelances présents sur la même plateforme, sur LinkedIn. On connaissait déjà le concept de mise en relation entreprise-freelance avec des sites comme Malt, Coder.com, Freelance ou encore Kicklox. Il y en a tout un panel. Et bien cette fois, c'est un géant de l'emploi qui s'y colle. C'est LinkedIn qui va ajouter ça à son panel d'outils. Le projet comprendrait donc également le développement d'un portefeuille numérique, ça c'est pas mal, qui faciliterait les paiements directement sur la plateforme et ça aiderait aussi un de leurs grands objectifs à LinkedIn, d'inciter les créateurs de contenu à continuer à publier chez eux. Forcément, ils vont être payés, ils vont créer directement dessus, donc on voit bien comment ça peut fonctionner. LinkedIn dispose déjà d'un outil tel de connexion freelance entreprise, mais qui est indépendant, qui s'appelle Profinder et qui permet de rechercher des freelances par sujet, par mots-clés, de se connecter avec eux pour des projets. Mais là, avec Marketplace, tout serait au même endroit, de la sélection à la paye. De plus, j'imagine que pour LinkedIn, hein, lier les deux pourrait permettre de partager directement l'offre d'un freelance sur LinkedIn, la réussite d'un projet commun, de mettre des avis sur son travail aussi, de le conseiller. Donc il y a plein de petites fonctionnalités qui pourraient venir se greffer. Je trouve ça super intéressant.
Ouais, intéressant à voir comment ça va tourner. Est-ce que ça va devenir une sorte de Fiverr pour les free? Est-ce que...
C'est les gros concurrents. Hein.
Ouais, j'imagine. Ouais, non, vachement intéressant à voir ce que ça va donner. Ou est-ce que ça va être juste de la presta, de la mise en relation, ou est-ce qu'il va y avoir vraiment y avoir de la presta que tu pourras acheter directement dans LinkedIn Marketplace. Effectivement, Marketplace, ça fait bizarre. Hein.
Ça fait un peu le bon coin de Facebook.
Voilà. C'est ça, exactement. Allez, moi, je vais vous amener, les amis, du côté de Twitter. Twitter qui lance une fonctionnalité de messages vocaux dans les DM. On ne parle que, je ne sais pas si ça a remarqué, hein, on ne parle que d'audio en ce moment. Ouais. C'est impressionnant. À peu près tout le monde s'y met. Alors évidemment, Clubhouse, hein, qui est au top de la hype en ce moment. Twitter aussi. Hein, Twitter qui tente beaucoup de choses en audio et cette fois-ci donc lance une fonctionnalité de messages vocaux dans les DM. Ça ressemble vachement à ce qu'on connaît du côté d'Instagram, Instagram Direct Message, où tu peux d'ores et déjà faire des audios dedans. La fonctionnalité, elle permet aux utilisateurs d'enregistrer un audio qui peut ensuite être envoyé sous forme d'un message, voilà, assez standard. La fonction, elle ressemble pas mal aussi au tweet audio qui était apparu il y a quelques semaines et dont, bizarrement, on n'entend déjà plus parler. Je sais pas, t'en vois,
t'as des... Non, j'en vois pas, mais ça devait pas être vraiment les codes, en tout cas du feed Twitter.
Ouais, c'est ça. Et donc, ces DM audio, par contre, là, il y a peut-être un vrai intérêt en matière notamment d'accessibilité. Ça, je trouve ça intéressant, notamment pour les DV, hein, les déficients visuels. Twitter souligne aussi que ces DM audio, c'est un autre moyen proposé pour aider à réduire les barrières linguistiques dans les régions multilingues. Ça aussi, c'est intéressant. Hein. Ça peut être parfois difficile de parler une langue, plus facile de parler une langue que de l'écrire. Je pense notamment, évidemment, à nos amis belges, en Suisse, etc. Écrire, peut-être que c'est plus facile d'écrire flamand que de parler flamand que de l'écrire, ça c'est fort probable.
T'aurais pu parler de l'Afrique où il y a des millions de dialectes, mais non, la Suisse forcément.
Exactement. Et puis, avec un angle plus marque, cette fois-ci, un plus marketeur, on peut aussi peut-être imaginer des usages assez malins, par exemple l'enregistrement de petites séquences audio amusantes, tu vois, ou informatives en réponse à des requêtes qui seraient faites par des clients en DM. Je pense qu'il y a pas mal de choses à imaginer imaginer de ce côté-là. Tu pré-enregistres des séquences, tu les as à disposition de TCM. Bref, voilà. Allez, jouez avec ça, les amis. Messages vocaux dans les DM, ça arrive. Alors, pour l'instant, je crois que c'est que sur certains pays, mais ça ne serait tardé chez nous.
Eh ben, à voir si ça prend sur Twitter, hein, tout simplement. Eh ben, moi, je vais te parler aussi de Twitter. Twitter, une entreprise qui se veut plus inclusive et multiculturelle, avec un pacte 25-25. 25 fois 25. Le 18 février, Twitter a fait une déclaration dans laquelle elle s'engage à ce qu'au moins un quart de ses cadres soient issus des minorités sous-représentées d'ici à 2025, dans les 4 ans. Un engagement baptisé Pacte 25-25, auquel plusieurs entreprises ont déjà décidé d'adhérer pour devenir des entreprises multiculturelles et inclusives. Plein de jolis mots. Hein. Selon Dalana Brand, responsable de la diversité chez Twitter, déjà on voit qu'il y a des responsables de la diversité.
Bah, c'est les States, mec. Hein. Voilà. C'est comme ça. Ouais.
Donc déjà, ça rigole pas. Ce pacte permet de dévoiler au grand jour une vision audacieuse d'une représentation multiculturelle de nos équipes. Twitter s'engage donc à accélérer le développement de ses programmes d'inclusion. En 2025, donc, dans cette entreprise, il y aura 25% de cadres issus de minorités, mais également 50% des effectifs qui seront des fans. Des femmes. Pardon.
Oui, rien à voir.
Peut-être fan aussi, on ne sait pas. C'est le Silicon Valley Leadership Group hein, qui a l'initiative. L'objectif est très clair d'inciter les entreprises à accroître leur diversité, bien sûr, dans la région de San Francisco, pour donner l'exemple, mais également dans l'ensemble des États-Unis. Ça intervient aussi en réaction d'une enquête d'Amnesty International. Ça fait plusieurs années que Twitter est pointé du doigt par Amnesty International de ne pas protéger les femmes des abus en ligne. Alors, c'est pas directement lié entre les abus en ligne et les employés, mais toutes ces menaces de mort, de viol, propos sexistes, racistes, transphobes, tout ce qu'on voit sur Twitter, bien sûr, une enquête de 78 pages publiée en 2018 pointait les faiblesses de Twitter. On dirait qu'en tout cas, c'est un premier levier qu'ils ont activé. Peut-être mettre plus de femmes au service chez Twitter, et ça permettra aussi de rétablir cette balance.
Très bien, allez, je vous amène du côté d'Instagram. Instagram qui devrait lancer ses lives multi-participants courant du mois de mars. C'est une super news. Alors, je reviens là-dessus. Audio en plein boom en ce moment. Hein. C'est marrant puisqu'on parle de live en ce moment. On est donc sur Clubhouse, vous l'avez compris. Là, tu as du live en multi-participants de ouf. Hein. Tu peux te retrouver à 300, 500 à papoter en direct, mais c'est en audio. Instagram, de son côté, continue à travailler sur des directs à lui au format 9/16 et en vidéo. Adam Mosseri, le big boss d'Instagram, vient d'annoncer l'arrivée des vidéos IG live à plusieurs participants dans les prochaines semaines. Les screen captures qu'on a pu voir et qui circulent en ce moment, elles montrent un écran de live Instagram partagé en 4 fenêtres, donc ça laisse à penser qu'on pourra accueillir jusqu'à 3 co-hosts. Donc évidemment, t'as pas beaucoup de place à l'écran hein, sur ton mobile, Tu te retrouves avec 4 petites fenêtres, mais ça reste quand même super intéressant. Hein. Et Instagram travaille sur cette fonctionnalité depuis longtemps. On le sait, ça fait un bout de temps que c'est dans les cartons, plusieurs mois, peut-être même une année complète. Les tests ont commencé en Inde dès décembre. Mais voilà, ça devrait arriver courant mars. Je trouve ça intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire du côté d'Instagram Live. Nous, on en fait pour le compte de clients. Eh bien, à chaque fois, on a plutôt des résultats très encourageants. Et puis surtout, ça permet vraiment de créer un lien extrêmement fort avec ses audiences, de vraiment créer un moment à part, je trouve, en face caméra. C'est intéressant. Et si tu peux venir à 4, tu peux imaginer aussi faire venir un fan qui intègre ta conversation. Je trouve que c'est cool à faire à suivre. On testera ça, nous, de notre côté, évidemment, dès que ce sera possible.
Ouais, c'est vrai que sur Insta, tu vois pulluler aussi tous ces groupes de conversation entre jeunes qui discutent entre eux, etc. Et les lives étaient plutôt fermé au final avec juste deux personnes. Là, si on peut en faire interagir deux, trois à la fois, ça peut être cool.
Exactement.
Et bien, à tester, moi, dans le fun, je vais continuer avec le fisc sur les réseaux sociaux. Voilà.
Oh.
On ne s'arrête plus. Le 13 février, le gouvernement a fait publier au journal officiel un décret autorisant le lancement d'une expérimentation visant à surveiller automatiquement certains sites web pour repérer d'éventuels fraudeurs. Alors, c'est l'application d'une fameuse loi Finance 2020 dont on parlait en octobre 2019 avec Adjane dans l'épisode 200. 265 du Super Daily.
Oui, bah, c'est le private joke entre nous, parce qu'un jour, ils ont fait cet épisode de leur côté, hein, c'était cool d'ailleurs, et ils ont eu la drôle d'idée de le faire sur le projet de loi de finances.
Mais
c'est pas le celui où il y a le moins d'audience, non ?
Non. Ah non, il restait intéressant quand même, mais en termes d'audience, mais c'est vrai que c'était un peu deep, c'était une grosse enquête, etc. Et puis de toute façon, ces projets de loi, on arrive toujours avec des tonnes de lignes, et au final, voilà, on est en 2021, donc ça fait un an et demi qu'on en a parlé, et on est sur une première petite phase de test. Donc le 13 février, le Parlement a validé un dispositif expérimental issu d'une loi finance. Donc tu vois, on est parti d'une grosse loi qui faisait peur à tout le monde, et là on est sur un dispositif expérimental. Hein. Donc pour lutter contre la fraude qui ouvre la voie à la surveillance de certains sites web, ce décret n'autorise pas toute la loi finance 2020. Il s'agit d'un dispositif de test provisoire, puisqu'il est annoncé que ce test est prévu pour 3 ans dans un périmètre relativement restreint. Alors, l'expérimentation vise spécifiquement les opérateurs de plateformes numériques de mise en relation. Pour l'instant, là, on était parti sur la surveillance de tous les réseaux sociaux, etc. Donc là, c'est les plateformes de mise en relation et leurs utilisateurs. On retrouve donc les sites de petites annonces comme Le Bon Coin, les sites de location meublée comme Airbnb ou encore Blablacar ou bien la marketplace Facebook. Donc ça, c'est un peu les gros sites.
Donc en gros, si je résume, si tu fais plein de moulas avec ta maison en Beaujolais sur Airbnb, eh bien, il y a des chances que tu te fasses gruger.
Voilà, tu peux te faire contrôler ouais. Ou alors que tu réserves trop souvent des hébergements hyper chers. Donc à noter hein, que seuls les contenus librement accessibles sur les sites internet de ces plateformes et manifestement rendus publics par les utilisateurs seront pris pour cible, ceux qui ne sont pas privés. Bon, bah, pour les cas là, tout semble public, mais voilà, il y a déjà un second niveau. Et ce sont des algorithmes et des bots hein, qui vont s'y coller. On lit dans ce décret que les outils s'appuieront sur des indicateurs qui ne sont pas des données à caractère personnel comme des mots-clés, des ratios ou encore des indicateurs, des dates caractérisant les manquements et les infractions recherchées. Donc ça va être une énorme popote hein,
qui va pas forcément servir, qui va faire pchit, comme dit l'autre.
Donc c'est de l'analyse et de la corrélation, et on verra ce que ça donne.
Bon, bah, restons vigilants, hein, parce qu'on le sait, oui. C'est quand même tentant d'aller voir de plus près ce qui s'y passe. Chers amis qui louaient des grosses bagnoles pour faire les malins sur Instagram, peut-être qu'un jour vous vous ferez redresser fiscalement. Eh bien, ça c'est en France, mais aux États-Unis ça ne sera pas le cas, parce qu'aux États-Unis les TikTokers, les Instagrammeurs et les Twitchers, bref, les créateurs de contenu, ont désormais la possibilité de se syndiquer. C'est très très sérieux. Qui a dit que ce n'était pas un vrai métier créateur de contenu, hormis votre mère? Je ne sais pas, parce que aux États-Unis, c'est clair, c'est le métier numéro un en haut de la liste de souhaits des Gen Z hein, en France, aux États-Unis, à peu près partout. Et pourtant, jusqu'à présent, bah, c'est quand même clairement le Far West, ce métier. Quels sont vos droits, vos devoirs? Qui vous protège en cas d'abus, en cas de redressement fiscal, par exemple? Comment ça se passe? Eh bien, aux États-Unis, c'est la fin de la récré. Les TikTokers, les Instagram, les Twitchers peuvent désormais adhérer au syndicat SAG-AFTRA. Alors bon, SAG-AFTRA, qu'est-ce que c'est ? C'est le syndicat des artistes aux États-Unis. Hein. Ils comptent déjà 160 000 membres et ils y sont tous, hein, tous les Leonardo DiCaprio, etc., etc. Mm-hmm. Tous les gros artistes sont adhérents de la musique aussi, hein, sont adhérents de ce syndicat. Eh bien, le syndicat vient d'autoriser tous les autres créateurs de contenu en ligne à y adhérer. C'est une vraie première. Ils avaient commencé il y a quelques temps avec les YouTubers et maintenant ils ont ouvert aux Instagrammeurs, aux TikTokers, etc. Alors, moyennant quand même des frais d'inscription, hein, on est aux États-Unis, hein, 3 000 $ pour avoir la carte du syndicat, et puis une cotisation annuelle de 1,5% de leurs revenus. Voilà, c'est ce qui commence à faire, j'imagine, pour certains, une petite brouette. Voilà, l'adhésion, qu'est-ce que ça va permettre? Et ça, c'est rapport aux États-Unis, c'est quand même précieux. L'adhésion va permettre aux créateurs de contenu d'avoir accès à une couverture maladie. Bah ouais, ils en sont encore là, les pauvres. Et puis, des prestations sociales. Voilà, donc un premier syndicat des créateurs de contenu intéressant. Je sais qu'en France, il y a déjà eu des discussions, je sais qu'il y a déjà eu des échanges, notamment autour des YouTubers qui sont parfois dans un statut un peu intermédiaire, sont pas intermittents du spectacle, et donc sont pas forcément rattachés aujourd'hui un collectif les protégeant. Intéressant, je trouve. Et puis, intéressant aussi à mettre en corrélation avec cette dernière news dont je souhaitais parler ce matin, qui est que TikTok arrive à la télé. Oui, c'est sérieux. TikTok vient de dévoiler, alors attention, hein, d'une certaine manière, parce que TikTok vient de dévoiler une version de son application mobile pour les appareils Google Télé et Android Télé en Europe, ce qui te permet, hein, sur ton poste de télé, eh bien, d'avoir une appli TikTok et de pouvoir parcourir l'intégralité réalité de TikTok, assez marrant, parce que tu te retrouves avec des formats 9/16 dans des écrans panoramiques gigantesques au cœur du salon, mais ça montre quand même le lien qu'il y a aujourd'hui entre ton équipement habituellement réservé à la maison au Netflix, etc., et le contenu produit par ces créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, qui se retrouvent de plus en plus au cœur de l'entertainment familial. Voilà, je trouve qu'il y a des, choses intéressantes à creuser de ce côté-là.
Tu nous remarques, tu nous fais une chaîne TikTok, hein, ça pourrait avoir le même carton que les vidéos gags des années 2000, tu scotches devant sans problème.
Ah, totalement, non, mais je pense.
TikTok sur ta télé.
Je pense que ça peut absolument remplacer, tu sais, une émission comme il y en a sur Télé 8 Mont Blanc à 3h du matin, et t'es bien dédé avec
tes
copains.
Arrête, tu parles de la chasse aux chamois, là.
C'est ça. Non, mais c'est vrai, ces fameuses émissions qu'on regarde en boucle à 3h du matin quand on est fatigué en rentrant de soirée. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire.
Et ça pourrait marcher, ouais, carrément. À tester.
Est-ce que tu avais d'autres choses?
Non,
on s'est tout dit. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez compris, on est de retour en quotidienne. Tous les jours, on vous donne rendez-vous ici, dans ce podcast, à retrouver sur toutes les plateformes. Apple Podcast, Spotify,
Deezer, Facebook, partout. Je dis Facebook. Non, je suis habitué à dire les réseaux sociaux sur lesquels on est présent.
Et puis on est aussi sur tous les réseaux sociaux, Facebook, voilà. Instagram, LinkedIn, Twitter,
et maintenant
Clubhouse, @supernatif. Vous nous retrouvez tous les lundis matins pour l'instant sur Clubhouse. Merci à vous tous. N'hésitez pas à partager cet épisode avec une pote, avec un pote.
Et on vous souhaite une très bonne semaine déjà.
Et on vous donne rendez-vous demain matin. Salut à tous.
Ciao.